Bonjour à tous les auditeurs. Alors effectivement, aujourd'hui le thème de l'environnement, alors qu'est l'un des sujets que le magistère, que même le pape François a abordé de manière très très lumineuse dès le début de son pontificat, puisqu'il nous a envoyé cette belle encyclique Laudato si pour nous aider à nous retrouver un peu dans cette, j'allais dire, cette jungle qui est le sujet de l'environnement. Pourquoi jungle? Parce que dans l'environnement, on peut entendre tout un tas de choses quand on parle à des personnes qui souhaitent protéger l'environnement. On a à la fois parfois des personnes qui nous parlent de décroissance, des personnes qui nous parlent du nucléaire en nous disant que c'est très vertueux, ou à l'inverse d'éoliennes, ou à l'inverse de réduire complètement ses consommations, parfois même en parlant de réduction de la population, etc. Et on a parfois du mal à s'y retrouver dans cette grande jungle. Et là, je crois que le pape François nous a vraiment aidés à trouver les bons repères, à trouver les bons repères sur ce que c'est que l'environnement, et ce que c'est qu'une lecture chrétienne de tous ces sujets d'environnement. Et par son encyclique Laudato si, il nous a appris quelque chose de très important, c'est qu'en fait, pour protéger l'homme, pour protéger la terre, il faut protéger l'homme. Et vice versa. Voilà. Donc, je crois que ça pourrait être le titre de cette intervention, c'est protéger la terre pour protéger l'homme et vice versa. Alors, le pape dans son encyclique, il commence par un constat, hein, il commence par nous parler de tout ce qui est de toutes les atteintes qu'il peut y avoir à l'environnement. Alors la pollution atmosphérique, les déchets. Il nous parle souvent de la culture du déchet. Alors un chiffre. Hein, dans les cantines scolaires notamment, il y a un tiers de la nourriture qui part à la poubelle. Quand on se parle de culture du déchet, voilà, un tiers de la nourriture qui arrive dans une cantine qui repart à la poubelle au lieu de partir dans les ventres des étudiants, des écoliers. Le pape nous parle également du réchauffement climatique, de l'impact sur la biodiversité, en nous disant que l'impact sur la biodiversité, c'est souvent difficile à chiffrer, à comprendre. Et malheureusement, on voit bien qu'on a du mal à les percevoir, ces sujets, quand on entend parler d'une petite espèce protégée dont on n'avait jamais entendu parler, qui existe qu'à un tout petit endroit de la planète et qu'on dit qu'elle disparaît, on a l'impression que ça ne va pas changer notre vie. Et pourtant, cette espèce, elle ne pourra plus rendre gloire à Dieu, elle ne pourra plus nous montrer la beauté du cadeau que Dieu nous a donné. Voilà. Jésus lui-même nous dit d'ailleurs, regardez les oiseaux du ciel, votre Père céleste les nourrit, ou regardez les champs qui mûrissent pour la moisson. Il nous dit vraiment, finalement, de regarder, et que là, il y a quelque chose de chrétien à aller chercher là-dedans. Le pape, en continuant un peu son tour d'horizon de l'état des lieux actuel de l'environnement, il nous parle de pollution de l'eau. Et on sait que l'accès à l'eau, c'est un droit fondamental. Il nous parle de bétonisation. Alors, les personnes qui connaissent un peu la culture musicale des années, alors ça doit être 80-90, se rappelleront que Starmania, dans cet opéra rock, il y a un personnage qui dit qu'il est... Il est né au milieu du béton et que c'est que là-dedans qu'il se sent bien. On sent bien que la bétonisation ne fait pas beaucoup le bonheur des uns et des autres, et je crois que le confinement nous l'a bien montré. Et puis, ça c'était tous les sujets environnementaux. Et puis le pape, en fait, nous dit, mais attention, l'air, les déchets, l'eau, l'impact sur la biodiversité, etc., c'est une chose. Mais à côté, on voit que en fait, les personnes pauvres sont celles qui souffrent le plus des grands effets des agressions environnementales. La pollution de l'eau, ça touche surtout ceux qui ne peuvent pas s'acheter de l'eau courante ou de l'eau en bouteille. Moi, j'ai une image très très claire qui me vient quand on me dit que les pauvres souffrent davantage des plus grands effets des agressions environnementales. J'ai passé quelques années au Caire, et au Caire, il y a des canaux dans lesquels, voilà, qui sillonnent le Caire là avec des petits cours d'eau là, qui passent au milieu, et c'est des endroits avec des tonnes et des tonnes et des tonnes de déchets. On voit presque plus les bords du canal, tellement c'est devenu une vallée de déchets. Et sans surprise, en fait, c'est l'endroit, ces canaux du Caire, c'est l'endroit où on voit des enfants qui travaillent, c'est l'endroit où on voit de l'habitat insalubre, c'est l'endroit où on voit de l'habitat indigne, indigne des personnes qui sont dedans. Et donc, on voit bien que c'est les pauvres qui souffrent davantage de ces plus grands effets. C'est pas un hasard complet, hein. Quand on respecte pas l'homme, il n'y a pas de raison que l'homme respecte le canal. Mais il en va un peu de même dans certaines banlieues où les cages d'escalier sont défigurées. Finalement, les personnes se sentant pas dignes ou vraiment protégées, finalement, les cages d'escalier finissent par être défigurées également. Ça vaut aussi, hein, une échelle qui fera sourire plus d'un, dans les cuisines communes, dans certains endroits étudiants. Effectivement, s'il n'y a pas une bonne socialité, si le groupe d'étudiants ne tourne pas très bien, en fait, la cuisine commune finit par être vraiment, vraiment sale. Voilà. Et donc, les pays, les peuples les plus pauvres, sont ceux qui sont les plus vulnérables. On le voit bien. Et souvent d'ailleurs parce que finalement on ne les écoute pas dans les endroits où on décide de gérer tel ou tel sujet qui ont un impact sur le réchauffement de la planète ou sur d'autres choses. Voilà. À l'inverse, hein, le pape nous dit qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour finalement faire mieux fonctionner la société. Il nous parle des transports en commun. Le transport en commun, voilà. Voilà quelque chose où on se dit, on a envie de l'avoir en commun, on a envie de le payer en commun, on le paye dans nos impôts. Et finalement, on se retrouve tous ensemble dans le même bus, hein, ce qui oblige un petit peu à laisser la place à l'autre, ce qui oblige à se protéger d'un peu plus près par rapport à si on était chacun dans notre voiture bien séparée. Et finalement, cette vie commune qui se construit, finalement, est une occasion de réduire un peu la pollution et l'impact environnemental. Voilà. À l'inverse, encore une fois, là je reviens du côté un peu négatif, mais on sait que dans les pays pauvres, il y a parfois des exploitations humaines dans certaines usines et qui sont souvent très qui laisse derrière elle, quand les usines finissent par partir, qui laisse derrière elle des énormes passifs environnementaux, parce que quand on a très mal payé les personnes, en général, en même temps, on n'a pas eu envie de mettre l'énergie et l'argent qu'il fallait pour construire de belles usines qui polluaient pas. Ouais. Donc dans cet environnement, finalement, dans l'environnement, et je crois que pour les chrétiens, ça devient de plus en plus clair là, que quand on parle d'écologie, il faut parler d'écologie intégrale. Voilà. Il y a l'environnement qui est la relation de la société à la nature, mais pour qu'il y ait une bonne relation de la société à la nature, faut d'abord qu'il y ait une bonne relation de la société. Et donc c'est ça que le pape nous dit. Voilà, quand on se parle, par exemple, je parlais d'usine, on sait que souvent il y a des sols qui sont pollués à la fin de vie des usines. Tout ça, aujourd'hui dans nos pays, on peut se féliciter d'avoir l'État qui assure un rôle de contrôle là-dessus. Mais finalement, l'état des institutions elles-mêmes, le fait qu'on ait un État qui fonctionne, c'est un signe de la société et qui a un impact sur l'environnement. C'est clair en France, on a un État bien solide qui fait un contrôle environnemental. À l'inverse, c'est clair dans d'autres pays où les institutions sont pas du tout aussi fortes. Je parlais de l'Égypte tout à l'heure. Finalement, en Égypte, l'État est pas du tout aussi fort et des choses très simples comme le ramassage des déchets, n'est pas géré. Et donc, il y a des déchets partout, il y a des sacs plastiques partout quand on se balade. Et donc là aussi, bah, finalement, pour que l'environnement fonctionne, on a besoin d'abord d'avoir une société qui fonctionne bien. Donc, toute atteinte à la solidarité et à l'amitié civile, nous dit le pape, a des impacts environnementaux. Voilà. Alors, je crois que c'est vraiment la chose qu'on doit retenir de la Laudato aussi. Hein. Parfois, on en retient des choses, j'allais dire, un peu trop simples, presque simplistes, de dire Laudato aussi, c'est l'Église qui nous dit qu'il faut protéger l'environnement. En fait, ce que nous dit le pape va beaucoup plus loin, il nous explique comment faire. Il nous dit que si on veut protéger l'environnement, d'abord, il faut protéger l'homme. Voilà. Alors ensuite, dans l'encyclique qui suit, qui est Fratelli Tutti, il nous explique comment prendre soin de l'homme. Mais d'abord, il nous explique qu'on ne pourra pas prendre soin de l'environnement si on ne prend pas soin de l'homme. Voilà. Alors ça, c'est le constat qui est posé par Laudato aussi. C'est la compréhension qu'on doit avoir, nous, chrétiens, de ce sujet-là. Voilà. Si on veut protéger l'environnement, ça ne doit pas être au détriment de l'homme. Une vision qui dirait qu'il faut réduire drastiquement la population qu'il y a beaucoup moins de gens pour que l'environnement puisse retrouver toute sa place et qu'au passage, s'il faut passer par des guerres, des maladies, des différentes méthodes de restriction des naissances, etc., et qui oublie complètement l'homme au passage, ce serait une vision vraiment pas chrétienne. Voilà. La vision chrétienne, c'est bien cet environnement qui est protégé par le fait que, et le pape nous parle de la maison commune, par le fait que, avant la maison commune, il faut bien qu'il y ait des gens à mettre dans la maison, il faut un nous, et que, en fait, nous, l'humanité, avons tellement envie de bien vivre ensemble qu'on a envie de protéger ce cadre dans lequel on est, ce cadre de l'environnement. Voilà. Ah, donc tout ça, c'est le constat, et puis c'est l'image c'est l'image et le mouvement d'ensemble qui nous est proposé par le pape. Alors du coup, comment s'y prendre concrètement? Parce que une fois qu'on a ça, qu'on se dit bon, moi j'ai envie de protéger l'environnement, je trouve que c'est voilà, j'ai envie d'être dans un beau cadre, j'ai envie d'avoir un cadre agréable, de pouvoir le transmettre à mes enfants, etc. J'ai compris que il y a quelque chose d'un peu social derrière. Et finalement, voilà, comment s'y prendre pour avancer là-dedans? Alors, je crois que bon, il y a plusieurs choses. D'abord, il faut savoir se rendre compte que voilà, chercher le durable pour le durable, parfois il y a des limites et qu'il faut vraiment comprendre ce qu'on veut quand on se parle d'environnement. Voilà, qu'est-ce qu'on veut réellement? Qu'est-ce qu'on cherche dans le durable? Et puis finalement, on verra et on conclura là-dessus qu'en fait cette recherche d'environnement, elle rejoint forcément le lien qu'on a à Dieu. Alors, je crois qu'on a tous en tête plein d'exemples hein, qui nous montrent que chercher le durable pour le durable, ça ne fonctionne pas. On a tous en tête des promesses de durabilité, de comportement vertueux, environnementalement parlant, comportement de développement durable qui nous ont déçus. On achète un ordinateur en se disant que c'est le dernier cri et que ça va vraiment être quelque chose de très bon qui va nous permettre de faire plein de choses, etc. Et puis 2 ans après, on se rend compte que l'ordinateur ne tient plus la charge, etc. La publicité nous pousse souvent à penser qu'on aura la jeunesse éternelle, qu'on aura des choses qui vont bouleverser notre vie de manière durable, etc. Et puis nous pousse à acheter tout un tas de choses qui font qu'on est souvent déçus. Le Black Friday, alors là, c'est même pas une promesse de durable, hein, mais le Black Friday qui est ce jour, en octobre, novembre, ça doit être novembre, pas très longtemps avant Noël, où finalement on est amené à multiplier nos achats en ligne. Finalement on se rend compte que quand on se force à acheter quelque chose parce qu'il y a un moins 10, moins 30, moins 40% qui est annoncé, finalement à la fin on est toujours déçu et on se rend toujours compte que cette promesse de vous serez heureux si vous consommez plus, ce bonheur il n'est pas durable. Et puis il y a même parfois des promesses de durable qu'on se fait soi-même. C'est la promesse du nouvel an. Cette année, tous les jours, je vais aller faire un footing. Cette année, je vais arrêter la cigarette. Cette année, je vais limiter la quantité de nourriture que je prends. Cette année, je vais arrêter la viande. Je vais la réduire. Et là, on se rend compte que ça tient pas très bien. Cette année, je vais ranger ma chambre tous les jours. Ou même dans le cadre professionnel, on arrive en septembre et on se dit là cette année on va faire un effort particulier pour avoir un beau cadre ensemble pour que tout soit bien propre. Et on se rend compte que ce durable-là, on le veut. On le veut, on l'a vraiment envie, hein. On a envie que nos résolutions de nouvel an tiennent. On a envie d'avoir le cadre propre dans une usine, d'avoir des postes de travail qui sont bien tenus, etc. On le veut et pourtant on ne réussit pas à le faire tenir. Alors, il y a une méthode industrielle qu'on appelle le 5S pour tenir des espaces propres dans les usines, qui passe par différentes étapes, je ne vais pas forcément toutes les lister. Mais la dernière étape du 5S, c'est ce qu'on appelle en anglais le sustain, qui est justement le rendre durable. Et autant les quatre premières étapes, à peu près tout le monde voit, il s'agit de jeter ce dont on n'a pas besoin, de donner une place à chaque chose, de faire briller et de mettre des standards connus. Mais quand on arrive au rendre durable, finalement, tout le monde hausse un peu les épaules en disant « Ah oui, mais ça, c'est le plus difficile, on ne sait pas très bien comment faire. » Et finalement, c'est pas complètement surprenant, c'est que voilà, jeter ce dont on n'a pas besoin, faire briller, mettre des standards, des fiches de poste qui expliquent ce qu'il faut faire, etc. Ça, on peut assez bien le faire tout seul. Par contre, réussir à ce que quelque chose devienne durable, ça implique la mobilisation d'un peu tout le monde. On passe du côté, finalement, si on veut vraiment le faire fonctionner, ça veut dire qu'on a besoin de, toujours pareil, ce lien social. On a besoin de réussir à mobiliser les gens autour de nous pour que telle personne ne vienne pas par son action dégrader notre poste de travail, que le collègue qui travaille de nuit sur le même poste que nous fasse bien la même chose que nous. Et donc, on se rend compte que voilà, dans ces promesses qui déçoivent, parfois on se rend compte que c'est un peu encore l'aspect social qui manque. Alors, ça vaut à petite échelle, hein, comme ça, sur un poste de travail dans une usine, ça vaut à très grande échelle. Hein. On a dans l'histoire de l'humanité des gens qui ont fait des promesses d'éternité, les pharaons qui en Égypte ont fait des pyramides en disant que ça permettrait à leur corps de rester le plus près possible des dieux jusqu'à la fin jusqu'à l'éternité, j'allais dire. Finalement, ils se sont tous fait piller les uns après les autres leur tombeau et là encore cette promesse éternelle qu'ils se sont fait eux-mêmes, elle a fini par les décevoir, sans doute parce que ils s'étaient fait une mauvaise promesse éternelle. Avoir une confiance irrationnelle dans certaines promesses éternelles qu'on se fait à soi-même peut être mauvaise. À une échelle différente, hein, avoir une confiance irrationnelle dans le progrès pour résoudre tout, et pour résoudre tous les problèmes environnementaux en particulier, se dire pas de problème, je vais polluer ce sol, mais dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, mes enfants auront fait des projets technologiques, des progrès technologiques qui permettront de dépolluer ce sol. Mais en fait, c'est une fuite en avant qui se résout jamais, parce qu'en fait, les enfants préfèrent aller consommer un espace naturel propre plutôt que d'aller dépolluer ce sol-là et pour construire de nouvelles choses. Donc pareil, ces promesses éternelles qu'on aimerait que même nos enfants nous fassent, finalement, c'est une manière de c'est une sorte de fuite en avant qu'il faut vraiment combattre pour revenir dans le présent. Voilà. Donc finalement, voilà, il faut qu'on apprenne à comprendre ce qu'on veut dans le durable. Le durable, qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut forcer l'avenir ? Est-ce qu'on veut étendre notre pouvoir même sur l'avenir ? Le fait que nos enfants apprennent à dépolluer ce qu'on a pollué ou apprennent à éponger la dette qu'on contracte quand nos sociétés sont endettées de manière chronique. Est-ce qu'on veut forcer les gens dans le futur à utiliser toujours des choses qui iront avec l'article que j'achète pendant le Black Friday et pour me permettre de faire ce que je veux au moment de mon achat, voilà. Je crois que souvent on a envie de mettre la main sur le futur quand on se parle de durable. Et du coup, finalement, cette recherche du durable, souvent elle est elle-même pas durable. Voilà. Est-ce que finalement, quand je cherche ce bonheur durable qu'on me vend quand je veux acheter plein de choses, est-ce que je suis prêt moi-même à mettre un petit peu plus d'argent dans les habits que j'achète pour que finalement ces habits soient durables, durs. Est-ce que je suis prêt à mettre un petit peu d'argent dans le fait que, même sans que moi je le vois, mais non, quand j'achète par exemple du chocolat, pour m'assurer que ça a été réalisé dans des bonnes conditions écologiques et sociales. Finalement, le chocolat à la fin dans mon assiette, c'est le même. Par contre, il y en a un qui a peut-être été fait en payant correctement les agriculteurs. Il y en a un qui a peut-être été fait dans les agricultures biologiques. Et finalement, la manière même dont on recherche quelque chose de durable ou de bon parfois et pas bonne sur la méthode, on n'est parfois pas dans la bonne chose. Le fonctionnement en ligne avec des infos qui se périment très très vite, des échanges sur les réseaux sociaux qui vont de plus en plus vite et puis qui se périment tout de suite et qu'on ne regarde plus un tweet qui a quelques heures, c'est déjà quelque chose qui n'existe presque plus, quoi. Voilà, est-ce que je, dans la manière dont je recherche peut-être des relations sur Twitter, sur Facebook, est-ce que je vise des choses qui durent ou est-ce que en fait j'ai remarqué que ce qui marche bien, c'est des tout petits tweets là, qui font une espèce de petit feu de paille et qui alimentent. Voilà. Quelquefois même c'est même difficile de savoir ce que veut dire faire durable. Voilà. On est parfois pris dans des espèces de cas de conscience où on se dit pour mes enfants, ils aimeraient bien avoir tel ou tel jeu, une piscine en plastique, ça leur ferait beaucoup de plaisir. Et je sens bien que soit la manière dont cette piscine a été faite, soit je sens bien qu'elle n'est pas de bonne qualité, ça va pas durer, etc. Et on peut avoir des sortes de difficultés à comprendre vraiment comment faire des choix entre quelque chose qui est important, hein, avoir des relations bonnes avec mes enfants, les faire grandir, leur faire découvrir des choses, leur faire passer des bons moments, et puis d'autres choses qui sont importantes aussi, qui est d'acheter des choses qui durent un peu. Et parfois, on peut même avoir des difficultés à faire un peu des choix là-dedans. Voilà. Et on a quelques. Et là-dessus, ben on a en fait quelques modèles qui se présentent à nous. Alors, et qui souvent nous ramènent dans le présent. Voilà, Saint François qui nous est souvent cité par l'Église, qui est le saint patron du Saint-Père. Saint François, c'était pas un ascétisme purement extérieur qui vivait quelque chose de vraiment radical. C'était il avait renoncé à dominer. Il voulait pas s'accaparer pour le futur des choses. Et c'est vraiment le fait de ne pas vouloir ça qui fait que il se sentait aujourd'hui, maintenant, frère et sœur de toutes ces autres créatures qui avaient été créées par le même Père, par le même Dieu. J'allais dire presque de la même manière qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes dans une démarche spirituelle, pas forcément chrétienne, peuvent chercher à vivre en pleine conscience. Quand on parle de pleine conscience, finalement, comment est-ce qu'on peut profiter réellement d'un plat, d'une nourriture qu'on prend, prendre le temps de vraiment la savourer, de comprendre ce qu'elle nous apporte, d'apprécier ce qui nous est donné, finalement dans une forme de gratitude qui, si on la christianise un peu, peut être la gratitude du bénéficité, remercier Dieu pour cette bonté qui nous propose. Là, on est bien dans l'instant présent, on est dans le repas qui est devant nous, on est dans la bouchée qui est à l'intérieur de notre bouche, comme Saint François qui était vraiment présent avec ceux avec qui il était. Je vais dire un petit exemple perso, hein, qui est, on avait initialement deux voitures, une pour ma femme et une pour moi. Et puis un moment où on s'est posé la question de est-ce que c'était vraiment nécessaire d'avoir deux voitures. Moi, la mienne, je l'utilisais 3-4 fois dans le mois, cassée, parce que j'allais plutôt en vélo au travail. Et donc on s'est posé la question de s'en séparer, et je me suis fait une... j'ai vraiment eu l'impression que ça allait être extrêmement compliqué de me passer de ça pour les 3-4 fois où j'en avais besoin, que ça allait vraiment être très difficile. Et puis finalement, une fois qu'on l'a fait, on a eu l'impression que c'était très facile. Ça a induit quelques petites contraintes une fois de temps en temps, mais qui trouvent toujours une solution très facile. Et de la même manière que quand on a la télé et qu'on a beaucoup l'habitude de regarder la télé, se séparer de la télé, ça peut avoir l'air monstrueux, et en fait, une fois que c'est fait, on se rend compte qu'on n'avait pas tant besoin de la télé. Donc je crois que, et là aussi, il s'agit vraiment de réussir à revenir dans l'instant. Dans l'instant, on n'a jamais un besoin vital de regarder la télé dans les 30 minutes. Le besoin vital d'avoir deux voitures en même temps, il est quand même pas très fréquent. Et donc là, finalement, le durable, il commence vraiment dans l'instant présent. Est-ce que je sais me rendre présent à l'instant présent? Est-ce que je sais ne pas m'inquiéter d'un avenir, de potentialités qui sont trop lointaines? Le marché de la seconde main se posait également cette question. Quand j'achète quelque chose, est-ce que j'ai besoin que ce soit de première main? Et à l'inverse, quand j'ai plus besoin de quelque chose, dans l'instant présent, parce que les conditions de la vie peuvent avoir changé, j'ai grossi, j'ai maigri, en tout cas ce vêtement, je ne le porte plus. va se rendre compte que rester dans le moment présent, c'est se rendre compte que ce vêtement, bah, j'en ai plus besoin, et que finalement, il pourrait être utile à quelqu'un d'autre. Là, c'est vraiment la destination universelle des biens qui nous est proposée par l'Église. Et le marché de la seconde main, bah, c'est de donner une utilité, permettre que ce vêtement serve à quelqu'un d'autre. Et donc, là aussi, finalement, c'est revenir un peu au présent. Je parlais tout à l'heure de nettoyage dans les usines, de propreté dans les usines avec le fameux 5S. Là aussi, la solution, elle est vraiment là. C'est comment est-ce que je réussis à construire une solution qui, à chaque moment, me donne envie que l'espace soit propre. Parce qu'il est agréable à regarder, parce qu'il me donne un peu plus d'air pour respirer quand c'est pas complètement encombré, parce que je me rends compte que ça contribue à de bonnes relations avec mes collègues de travail, etc. Je crois que toute la vie chrétienne, et en particulier cette question de durabilité, on peut avoir envie de se projeter dans l'avenir de manière très loin, et finalement, pour beaucoup de choses et de manière contre-intuitive, même sur ce sujet de la durabilité, en fait, la question n'est pas de se projeter dans le futur. Et Jésus nous le dit lui-même, il nous dit le royaume de Dieu est là. Il ne dit pas quand le royaume de Dieu sera là, il ne dit pas, préparez-vous pour dans longtemps quand. Il est vraiment toujours dans l'instant avec nous, il nous demande de nous convertir là, tout de suite, maintenant. Lui-même à cet homme qui s'occupe de savoir comment faire pour se convertir avant sa mort, tu ne sais ni le jour ni l'heure, donc peut-être que le moment de se convertir, c'est maintenant. Ouais. Donc il faut que dans nos recherches de durable, on soit capable, en tant que chrétien en particulier, voilà, de réussir à retrouver le moment du temps présent. Et ça, bah, finalement, voilà, protéger l'environnement, c'est vraiment passer de cette consommation à un sacrifice, au sens sacrifice du temps présent. Je donne le temps présent que j'ai maintenant pour passer de cette consommation au sacrifice, du gaspillage au partage. Voilà, le partage, c'est vraiment quand on partage une voiture avec quelqu'un dans un BlaBlaCar, etc., finalement, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du passer un moment avec, toujours dans cet esprit, finalement, d'avoir du lien, du lien, du relationnel, et que c'est dans ce lien au présent que vont se jouer beaucoup de choses qui sont de l'ordre de la protection de l'environnement. Voilà. Si on réfléchit juste à protéger l'environnement dans 50 ans, c'est bien, il faut le faire, il faut qu'on ait des gens qui le fassent. Par contre, on va avoir beaucoup de mal si on ne s'est pas d'abord ancré dans ce qu'on veut aujourd'hui et maintenant, concrètement, dans notre vie. Voilà. Et du coup, tout ça, revenir sur le temps présent, revenir sur ce qu'on a à vivre aujourd'hui avec les autres, sur le royaume des dieux qui est là, ça nous fait passer de ce que je veux à ce dont le monde de Dieu a besoin. Voilà. Et en fait, ce qu'on veut ultimement dans le durable, c'est Dieu. Tout ce qu'on peut souhaiter de durable, même la pierre des pyramides, elle finit par s'éroder. Les procédures dans les entreprises, ça finit par s'éroder d'une manière ou d'une autre. Même mes amis, ils sont libres, ils peuvent partir, ils peuvent aller voir d'autres choses. Mais ce qu'on veut ultimement dans le durable, c'est Dieu. Et donc cette recherche de durabilité, cette recherche de quelque chose qui est durable et puis qui accessoirement va protéger l'environnement, c'est toujours Dieu. Alors, pour nous, c'est clair, hein, la nature, c'est une révélation de Dieu, puisque Dieu nous a confié la nature. Donc, ce cadeau, la beauté de ce cadeau, nous dit quelque chose de l'amour qu'il a pour nous. Et c'est vraiment là-dedans qu'il faut ancrer pour nous, en tant que chrétiens, notre envie de protection de l'environnement. Alors, on ne veut pas protéger l'environnement parce que seulement parce que c'est bon pour nous, parce qu'on peut en jouir, ou parce que, etc. On veut protéger l'environnement parce que cet environnement, qui est un signe de Dieu, on veut le protéger parce que c'est ce cadeau de Dieu, et donc c'est un petit regard qu'on peut avoir sur Dieu et sur l'amour qu'il a pour nous. Donc, c'est ce signe de l'amour que Dieu a pour nous qu'on veut protéger. Dieu, il nous a confié le monde pour qu'on le protège. Et on sait que les atteintes à l'environnement sont souvent des péchés. On peut parler des décharges sauvages, on peut parler de plein de choses dont on a parlé depuis le début de cette émission. Réussir à protéger l'environnement, c'est d'abord protéger quelque chose de Dieu et cette relation qu'on veut avoir avec Dieu. Et c'est ça qui doit pour nous fonder notre envie profonde de protéger l'environnement. Tout au long de la Bible, il y a plein d'exemples. Hein, après que quelqu'un a tué son frère Abel, il est jeté de la terre fertile, qui ne veut plus de lui, parce qu'elle a reçu le sang de son frère. Adam, pareil, il est jeté en dehors du jardin d'Éden. Voilà, Jésus nous dit de regarder les champs qui sont blancs pour la moisson. Et il amasse, et il ajoute que celui qui moissonne amasse des fruits pour la vie éternelle. Alors, on est vraiment dans... quand on protège l'environnement et quand on cherche l'environnement, pour nous, c'est vraiment semblable à notre recherche de Dieu. Et c'est ça qui doit construire cette recherche durable. J'allais dire, les jésuites, dans leur démarche de discernement, ils nous disent, voilà, quand vous avez un choix à faire, faites-le quand vous vous sentez en consolation, c'est-à-dire quand vous vous sentez plutôt en bonne forme, en bonne disposition mentale, et pas quand vous êtes en désolation, en grande tristesse ou autre. Là, finalement, là encore, il nous dit, la nature, votre nature vous dit quelque chose de Dieu. Si vous vous sentez bien, c'est que quelque part vous êtes proche de Dieu ou vous vous rapprochez de Dieu, alors que si vous vous sentez en grand stress, en grande inquiétude, c'est pas le moment de prendre une décision parce que vous êtes sans doute pas suffisamment attaché à Dieu à ce moment-là. Voilà, donc dans cette recherche de prendre mes décisions quand je suis en consolation, les jésuites nous disent: vous voulez quelque chose de durable, vous voulez quelque chose de beau, vous voulez faire prendre une belle décision, vous la prendrez, mais quand vous êtes proche de Dieu, c'est là que vous la prendrez bien. Voilà, on a parlé des bénédicités, du sacrement. Beaucoup de sacrements, là encore, les sacrements, c'est vraiment quelque chose de très durable que nous a donné l'Église, quelque chose qui est beau et qui nous accompagne dans le monde. Beaucoup de sacrements en fait reposent sur quelque chose de très visible, de naturel. Il y a l'eau du baptême, la lumière du baptême, l'huile de la confirmation, le pain de l'Eucharistie qui devient Dieu lui-même, le pain et le vin de l'Eucharistie qui deviennent Dieu lui-même. Et là, on est encore vraiment dans ce moment où on a à vivre vraiment dans l'instant la présence de Dieu. Et finalement, protéger cet environnement, protéger ce pain, ce vin, tout ce qui représente hein, et ce qui a permis qu'il puisse être fabriqué, c'est protéger le lien qu'on doit avoir avec Dieu lui-même. Voilà. Et puis un dernier point, puis je m'arrêterai là. Ce Père créateur, Dieu le Père qui nous a créés, c'est également... Ce Dieu, voilà, est également celui qui nous sauve par la personne de Jésus qui est mort, ressuscité pour nous. Et en fait, ça nous remet vraiment à notre place de prier Dieu qui nous sauve. En fait, ça nous sauve du coup de prier Dieu le Créateur et du coup de vraiment être dans cette amitié avec Dieu le Créateur, et du coup de respecter et de rechercher toujours plus cette relation qu'on peut avoir avec la création, qui est ce don d'un ami et qui est non pas seulement notre ami, mais notre sauveur, nous mettre en relation avec le monde et chercher à le construire, pas tout seul, on est ensemble pour réussir à le faire. Ça doit nous permettre d'aller rejoindre Dieu qui nous sauve. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est bon pour notre salut que d'aller chercher à protéger cet environnement, à protéger ce don qu'il nous a fait. Amen.
Amen. Merci beaucoup, Thomas. Et on vous retrouve donc le mois prochain pour la dernière émission de la saison.
Oui, tout à fait.
Ce qui portera donc sur le thème.
Et donc, la prochaine fois, en fait, on fera une rétrospective parce qu'on on a fait presque tous les sujets de la doctrine sociale de l'Église.
Doctrine, oui.
Alors, il en manque un qui est l'action de l'Église. Donc, on parlera un petit peu finalement de la DSE dans l'Église. Alors, j'aime bien dire comme une boutade que la DSE s'applique même à l'intérieur de l'Église.
Oui.
c'est malheureusement assez peu connu à l'intérieur de l'Église. Donc, on pourra parler un petit peu de ça. Et puis, on fera une rétrospective rapide un peu de tous ces sujets-là pour en comprendre la logique et puis peut-être avec quelques sujets d'actualité de cette année qu'on pourra décortiquer au passage. Voilà.
Très bien, super. Mais en tout cas, merci beaucoup Thomas et donc
oui.
Au mois prochain alors.
Oui, et merci. Au revoir.
Au revoir.